C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous vous parlons souvent dans C'est pas du vent de toutes les initiatives citoyennes qui, heureusement, fleurissent à travers le monde pour planter les graines de la transition écologique. En 4 ans, l'association lyonnaise Anciela et sa pépinière ont permis la création de 188 projets écologiques et solidaires. Un modèle inspirant qui fonctionne, que nous vous ferons découvrir dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Mais tout de suite, direction la Nouvelle-Calédonie, la planète revisitée. C'est le nom d'un vaste programme mis en place depuis 10 ans par le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'ONG Pro Natura International. L'objectif de ce programme scientifique est d'explorer la biodiversité dans les écosystèmes les plus riches, mais aussi les plus reculés de la planète. Après la Papouasie, le Mozambique, Madagascar ou encore la Guyane, les chercheurs se penchent sur la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont notamment consacré leurs recherches à une petite forêt d'altitude isolée, perdue au cœur des montagnes de l'île. C'est un reportage de Yann Chavance.
Oui Fabrice, je suis en place à toi.
Ouais, donc on est posé dans 10 minutes. Par contre, je vais faire un passage au-dessus du camp pour des prises de vue. Donc pour cette route, je vais couper et je vais ravitailler.
Bonjour,
Xavier.
Bonjour.
Hop.
Bonjour, Xavier.
Pardon. Bon, bah, bienvenue à l'auberge de Boisbouy.
Ah, ça a l'air sympa comme tout.
Ah, vous verrez ça à la fin. Vous verrez ça plus tard.
On va descendre au campement en bas.
Oui.
Il m'arrive à vous montrer les emplacements qui restent pour les tentes.
D'accord.
Pas de chance, vous êtes les derniers. Donc, en fait, vous aurez en définitive assez peu de choix. Et ensuite, vous pourrez aménager vos affaires. Je crois que Olivier voudrait qu'on fasse un briefing général pour tout le campement. Donc, avec Isabelle, qui sera la responsable de la bonne marche et de la belle vie du camp.
C'est la 5e et dernière rotation d'hélicoptère. Ça y est, la dizaine de scientifiques est maintenant arrivée sur le premier site du volet terrestre de l'expédition. Ils prennent en ce moment leur quartier, découvrent le camp de base, quelques bâches et tentes disséminées sous cette forêt d'altitude. Et je suis de mon côté avec Olivier Pascal qui a monté cette expédition terrestre. Pourquoi un hélicoptère alors que nous sommes en Nouvelle-Calédonie, une île relativement peuplée où l'on n'est jamais bien loin de la civilisation ?
Alors oui, la Nouvelle-Calédonie est développée. En général, les sites sont accessibles, mais là, nous sommes sur la côte dite oubliée, c'est son surnom. Et comme ce nom l'indique, pas de route, pas d'accès en véhicule. Donc, on a préféré monter sur ce point haut à 950 mètres en hélicoptère, d'autant que les pentes sont raides. Il aurait fallu sans doute 3 jours de marche en léger et voilà une semaine pour monter une logistique relativement complexe pour accueillir et faire vivre un groupe d'une vingtaine de personnes.
Cette côte oubliée, est-ce qu'elle est également oubliée des naturalistes? Est-ce qu'il y a déjà eu des expéditions de ce type dans cette région?
Alors il y a eu des naturalistes évidemment, ils sont allés à peu près partout en Nouvelle-Calédonie, mais celle-là effectivement, le problème d'accès fait que elle est moins collectée, elle est moins prospectée qu'ailleurs, notamment l'endroit où nous sommes, le pic s'appelle le pic Combouy. Et pour la petite histoire, il y a, je crois, depuis 1870 que 4 botanistes qui ont mis les pieds à l'endroit où nous sommes.
Et cette volonté d'aller dans des endroits peu, voire pas prospectés pour la science, ça fait partie du credo des expéditions La Planète Revisitée ?
Alors ça fait partie du credo, effectivement, aller dans des endroits peu prospectés, inconnus sur le plan biologique. Nous, notre envie, c'est de faire ce que les autres ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Mais on a également travaillé avec les autorités provinciales et on nous a incité à venir là également parce que un manque de données criant pour l'aménagement et les futurs plans d'éventuelle conservation du territoire.
Et après le Vanuatu en 2006, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madagascar, le Mozambique, la Guyane l'année dernière, qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à vous tourner vers la Nouvelle-Calédonie ?
Alors, c'est des liens historiques. Hein, la recherche, notamment, qui est menée au muséum sur cette île, et voilà, c'est des dizaines d'années de chercheurs et de botanistes, de zoologistes qui fréquentent la Nouvelle-Calédonie. Donc on a un pool également de données, une base d'informations à compléter qui était très intéressante. Par ailleurs, qui dit Nouvelle-Calédonie dit non seulement hotspot de biodiversité, mais voilà, un des berceaux de l'endémisme mondial. C'est vraiment une île particulière, très ancienne, avec une faune et une flore qui a évolué en vase clos, un sommet d'endémisme pour les plantes. 80% des plantes ici ne pousse que sur ce territoire et nulle part ailleurs. Voilà, et tout à l'avenant, les insectes et autres animaux.
Et cette spécificité de l'endémisme en Nouvelle-Calédonie, ça a également joué sur la logistique de l'expédition ?
Exactement, donc contrairement à la Guyane, par exemple, où on a mené une opération similaire, enfin en tout cas dans le cadre du programme l'année dernière, en Guyane, on peut monter une grosse opération sans avoir à bouger, parce que, en résumé, tout est un peu partout en Guyane. Vous alliez au sud, au nord, au centre. La différence ici, effectivement, c'est que vous changez de vallée, vous changez pratiquement de pays. Hein. Donc l'organisation de cette mission est assez différente des précédentes. C'est-à-dire qu'on a eu envie de visiter plusieurs sites. D'où une mission itinérante, un peu plus légère en équipe, mais plusieurs points pour effectuer des comparaisons entre les sites et voir effectivement les différences de richesse, mais surtout les différences de type d'espèces hein, que ces sites recèlent. Alors là, on en fait 3 cette année, et puis on pense en faire 3 autres l'année prochaine dans la province nord. Donc voilà, on aura fait un tour. Évidemment, on n'aura pas fait le tour de la Calédonie, mais on aura des éléments de comparaison à terme sur nos collectes.
Une autre spécificité par rapport aux autres expéditions, c'est également un territoire qui est plus touché par les activités humaines.
Qui est touché, qui est plus touché, malheureusement, je crois qu'il y a... Il n'y a plus beaucoup de territoires qui ne le sont pas. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie est réputée pour sa richesse première, qui est le nickel, exploité depuis de nombreuses années. Donc voilà, de part en part, on voit des collines dénudées, des sols mis à nu. Ça fait effectivement des dégâts, mais je crois qu'ici, tout le monde est d'accord pour dire que le principal dégât sur l'environnement, c'est le feu. Alors qu'il soit intentionnel, accidentel, c'est un pays qui souffre du feu depuis de nombreuses années. Et les poches de forêt intactes sont rares. On a fait de nombreux repérages, de nombreux survols l'année dernière pour repérer ces forêts. Et voilà, il n'y avait pas un choix énorme. Donc les 3 sites qu'on visite, en tout cas sur une bande côtière de 20 km sur cette fameuse côte oubliée, les forêts sur lesquelles on va travailler, voilà, sont les quelques-unes qui restent.
Après une demi-heure de marche depuis le camp de base, un petit groupe d'entomologistes, les spécialistes des insectes, menés par Philippe Grandcola, le directeur scientifique de l'expédition, vient d'arriver face à un étrange dôme de tissu au milieu de la forêt. Philippe Grandcola, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un piège qu'on appelle le piège de malaise, du nom de son inventeur. C'est une espèce de tente qui dirige les insectes du sous-bois vers le haut de la tente, vers un flacon rempli d'alcool dans lequel ils tombent et se retrouvent piégés.
Donc celui-là, il était installé par un autre groupe il y a quelques jours ?
Voilà, il y a quelques jours, et on voit avec plaisir d'ailleurs que les flacons remplis d'alcool qui se trouvent au sommet comportent déjà quelques dizaines d'individus qui ont été piégés depuis ces 2-3 jours d'installation. Donc on peut espérer qu'au terme d'une période d'une quinzaine de journées, on ait un échantillonnage assez significatif de la faune de l'endroit où se trouve le piège.
On peut peut-être regarder ce qu'il y a dans ces flacons justement ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, alors là visiblement il y a pas mal de papillons, quelques coléoptères, quelques diptères, hein, donc des insectes qui sont capables de voler, de se déplacer en volant, hein, qui se retrouvent piégés au fond de la tente. Donc l'idée c'est d'avoir cette image ici et de la comparer à l'image de 2 autres localités qui sont ciblées également par l'expédition. En Nouvelle-Calédonie, on a non seulement une richesse faunistique importante, beaucoup d'espèces, mais également des espèces dont la répartition est très limitée, qui évoluent par isolement, chacune sur une petite montagne, dans un ruisseau. Et donc l'espoir que l'on a grâce à ce dispositif, c'est de tracer ces répartitions restreintes chez des espèces proches parentes dans trois lieux, un peu isolés les uns des autres, mais néanmoins pas trop distants, distants de quelques kilomètres. Et l'ensemble permettant la comparaison des trois localités en termes de répartition des espèces, de ce qu'on appelle des espèces endémiques, qui se sont retrouvées limitées à des localités différentes.
Et en termes de quantité, mais aussi surtout de diversité d'espèces, à quoi on peut s'attendre en Nouvelle-Calédonie ?
Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit étonnant. Hein. C'est une assez grande île, très isolée de toutes les aires continentales adjacentes. Donc on peut s'attendre à quelques dizaines, voire quelques centaines d'espèces au terme d'une période d'échantillonnage. Et l'important est d'arriver à explorer un certain nombre de compartiments du sous-bois de manière à avoir une image la plus globale possible, si, même si elle n'est pas exhaustive.
Et dans ce type de site qui n'a été que très peu prospecté, est-ce qu'on peut s'attendre également à des nouvelles espèces ?
Oui, bien sûr. La majorité des groupes d'insectes du sous-bois qui ne sont pas très emblématiques, en fait, auraient été peu collectés, et en particulier ici en Nouvelle-Calédonie, dans des localités qui sont passablement isolées et dans lesquelles il existe un endémisme, une répartition restreinte importante, on peut s'attendre à ce que plus de la moitié des espèces en fait ne seront nouvelles pour la science et devront faire l'objet d'une description publiée de manière que chacun puisse s'y référer dans le futur.
Nous sommes encore plus loin, le long du sentier, ouvert pour l'expédition, avec un autre groupe de naturalistes qui s'affaire sur une petite parcelle de forêt. Édouard Bourguet, vous êtes écologue à l'IRD, qu'est-ce que vous faites sur ces parcelles ?
Alors nous, en fait, on installe des parcelles pour étudier différents groupes de la forêt, donc notamment les reptiles, les grillons, les fourmis et puis tout un tas d'autres petites bestioles, notamment aussi des blattes, des petits coléoptères. Et le but de cette opération, c'est donc de collecter de façon standardisée, donc répéter toujours la même façon dans différents endroits donc de la côte oubliée.
Et quel type de piège vous disposez sur ces parcelles ?
Alors on utilise pour les reptiles notamment des pièges collants. Pour les fourmis, on va utiliser donc des pièges qu'on appelle des pitfalls, donc qui sont des petits puits dans le sol créés avec des poids en plastique dans lesquels les animaux tombent en se promenant dans la forêt. On va utiliser également des extractions de litière, donc on va récupérer des feuilles au sol, 1 mètre carré, qu'on va extraire ensuite dans des enceintes fermées. Tous les insectes qui seront piégés dans cette litière vont tomber dans les pots en dessous. Et on utilise également en fait tout un bloc en fait d'études sur les grillons, donc notamment de l'acoustique et de la prospection sur parcelle, où pendant une demi-heure on va essayer de récolter tous les grillons qu'on va rencontrer sur la parcelle.
Et vous êtes également ici pour inventorier les reptiles. C'est un groupe riche en Nouvelle-Calédonie, les reptiles ?
Alors les reptiles sont extrêmement diversifiés en Nouvelle-Calédonie. On fait encore des découvertes quasiment chaque année de nouvelles espèces, voire de nouveaux genres. C'est un groupe qui est également très reconnu de par le monde, notamment aux États-Unis où il y a énormément de collectionneurs de geckos géants de Nouvelle-Calédonie, parce que ce sont des animaux qui n'existent absolument nulle part ailleurs.
Alors à côté de vous, sur la même parcelle, se trouve Jérémy Anseau. Ce spécialiste des grillons est en train de dévisser une petite boîte métallique d'où sort un micro. Jérémy Anseau, de quoi s'agit-il ?
Des enregistreurs automatiques qui vont servir à récolter toutes les ambiances sonores émises par toutes les espèces dans le milieu. Et sur ce site-là, pour notre protocole, on suit des mêmes protocoles qu'on a déjà mis en place et on enregistre 2 minutes toutes les 28 minutes. Donc on a 2 fichiers par heure, 2 jours comme 2 nuits.
Et vous êtes capable d'identifier chaque espèce de grillon grâce à son chant ?
Voilà, c'est ça. C'est la particularité des grillons, c'est qu'il n'y a que les mâles qui chantent et ils ont un chant qui est unique. C'est-à-dire qu'on peut identifier une espèce par son chant. Soit il y aura une différence de fréquence au niveau du spectre, soit il y aura une différence de rythme, plus fort, moins fort. On peut faire une description de nos communautés acoustiques uniquement par le chant des grillons.
Et à plus grande échelle, ça pourrait devenir un marqueur de la biodiversité assez simple à mettre en pratique n'importe où sur un terrain ?
Ouais, voilà, c'est une question super intéressante parce qu'il y a une petite idée derrière, un peu sympathique pour les gestionnaires et ceux qui s'occupent des parcs naturels, c'est d'utiliser ces boîtiers en fait comme des sortes de sentinelles de l'environnement, donc ils vont enregistrer en continu. On peut imaginer après des connexions automatiques avec des bases de données, un transfert en temps réel des informations, un traitement derrière, et on a un suivi de la biodiversité par l'acoustique en temps réel, par exemple. Et on sait que s'il y a un effondrement, par exemple, ben on se dit que là, il y a un souci, il y a une introduction d'espèces envahissantes, il y a un feu, tout simplement, il y a eu de la déforestation. Enfin, toutes ces choses-là pourraient être mesurées simplement, sans compétences taxonomiques particulières, parce que c'est un gros frein dans les milieux tropicaux, et qui pourraient servir, voilà, comme on aime bien le dire, un peu entre nous, là, de sentinelle un peu de la nature, quoi.
Et c'est des choses qui pourraient se développer concrètement en Nouvelle-Calédonie bientôt ?
C'est des choses qui pourraient complètement se développer, que les parcs pourraient mettre en place, mais qu'il faut obligatoirement tester scientifiquement pour voir s'il y a une robustesse, s'il y a une réalité écologique derrière. Est-ce que les grillons ne nous donnent pas une mauvaise indication au final de la biodiversité des autres groupes ? Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire sur la corrélation avec tous les autres groupes taxonomiques. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Australie, hein. Ils ont placé des réseaux de boîtiers enregistreurs dans tous les parcs naturels pour faire un suivi en temps réel de la biodiversité. Donc ça pourrait être un outil fort, vraiment, d'aide à la décision et à la gestion des parcs naturels avec des enjeux de biodiversité.
La nuit est maintenant tombée sur le camp. Toute l'équipe est réunie sous la grande bâche centrale qui sert de réfectoire sous la lumière fournie par le groupe électrogène. Le repas chaud du soir se termine et déjà un petit groupe s'apprête à repartir en forêt pour une chasse nocturne.
Ouais. Courageux.
C'est pas grand chose, c'est qu'un petit peu de marche en plus.
Ouais. Non, c'est à gauche, Tony.
Après une bonne heure de marche dans une nuit noire, la forêt juste éclairée par les lueurs des lampes frontales, le petit groupe s'est arrêté sur le bord du sentier. Frédéric Legendre, vous qui chassez les blattes toutes les nuits, qu'est-ce que vous venez faire ici exactement ?
Alors ici, une parcelle a été délimitée et on vient récolter les blattes de manière standardisée avec un temps d'échantillonnage par personne qui est fixe, ce qui nous permet d'avoir un effort d'échantillonnage comparable entre les différentes placettes. Il y en a 3 parcelles différentes qui ont été placées et donc là, on s'est arrêté une demi-heure pour gratter dans la litière et observer sur les plantes toutes les blattes qu'on pouvait récolter.
Mais vous chassez également ici durant la journée, pourquoi revenir la nuit ?
L'ensemble des blattes, à quelques exceptions près, sont nocturnes, donc elles sont beaucoup plus actives la nuit. Elles se perchent aussi sur les plantes, donc on les trouve beaucoup plus facilement, alors que de jour, elles sont plus compliquées, elles sont à trouver, elles sont cachées dans la litière, litière aérienne, litière au sol, et elles sont donc plus compliquées à trouver, en règle générale.
Et il y a des espèces particulièrement intéressantes ici en Nouvelle-Calédonie ?
Oui, en fait, la Nouvelle-Calédonie se caractérise pas seulement pour les blattes d'ailleurs, par un très fort taux de micro-endémisme avec des espèces qui d'une montagne à l'autre ne sont pas les mêmes. Au-delà de ça, il y a certaines espèces, j'ai été perturbé par le dermaptère.
On a été interrompu par une petite bestiole, qu'est-ce que c'est ?
Un dermaptère, donc un perce-oreille, qui là a fait un beau gabarit, donc du coup ça m'a un petit peu perturbé.
On parlait de l'endémisme en Nouvelle-Calédonie chez les blattes.
Oui, donc comme je le disais, il y a des genres qu'on trouve exclusivement en Nouvelle-Calédonie, et au-delà de ça, on a parmi ces différents genres, on a des espèces qu'on ne trouve que sur une montagne, par exemple, et donc là, on s'attend à trouver des espèces nouvelles, puisque ici, très peu de points de collecte ont été réalisés.
Et dernière question, pour vous, ce n'est pas trop difficile de travailler à la fois le jour et la nuit ?
J'avoue que c'est un rythme un peu fatigant par moment. Après, il y a les promenades, c'est un peu de la promenade, franchement, quand on se balade dans la forêt la nuit, c'est vraiment très très agréable. Et on trouve toujours des petites nouveautés, des petites blattes perchées comme ça à droite, à gauche. Et au-delà des blattes, il y a pas mal de bestioles à regarder. Et c'est toujours un plaisir, mais c'est vrai que le rythme est assez soutenu.
Jesus.
alors que l'équipe s'apprête à quitter le camp de base pour recommencer le même travail de collecte sur deux autres sites, quelques kilomètres plus loin. Je retrouve Philippe Brancola et Olivier Pascal, respectivement responsable scientifique et responsable logistique de ce volet forestier. Combien de temps va-t-il falloir pour trier et décrire toutes les espèces capturées ici, qui pour certaines sont nouvelles pour la science ? Comment ça va se passer ce tri, Olivier Pascal ?
Alors ça va se passer au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et on va certainement embaucher deux ou trois personnes pour trier, pas 24-24, mais en tout cas faire un tri rapide, efficace, sur environ un mois et demi, on espère.
Et après le tri, il y a tout le travail de description des espèces nouvelles.
Alors évidemment, ça risque de prendre un peu plus de temps. Pour certains groupes bien maîtrisés par certains participants, ça peut aller assez vite. Et puis pour d'autres, traditionnellement, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années.
Et en marge de ces espèces capturées manuellement, il y a aussi les pièges malaises, ces dispositifs qui capturent les insectes volants à proximité. Philippe Brancola, que vont devenir les contenus de ces pièges ?
Alors le contenu de ces pièges va être traité de plusieurs manières. Un séquençage moléculaire de l'ADN qui est dissous dans l'alcool, un séquençage d'un morceau de chaque individu d'insecte dans un certain nombre de bocaux correspondants, et puis enfin un séquençage global du contenu de ces bocaux, de manière à établir une correspondance entre les trois types d'extraction d'informations.
C'est ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire le séquençage non pas du génome d'un individu ou d'une espèce, mais de l'ensemble des espèces dans un environnement. C'est quelque chose de nouveau pour les insectes.
Effectivement, c'est une technique qui a été beaucoup utilisée par les microbiologistes. Dans le cas des insectes, ça n'avait pas été beaucoup utilisé jusqu'à présent. Et on espère dans le futur, de cette manière, pouvoir aller plus vite, plus loin sur des échantillons pour lesquels des descriptions d'espèces sont déjà disponibles.
Et concrètement, si cette méthode est validée, quelles sont les perspectives qui peuvent être ouvertes par la suite par cette méthode ?
Alors, ce que l'on peut espérer, c'est avoir un regard rapide sur un certain nombre d'échantillons qui seront pris dans des milieux analogues, directement par séquençage d'un liquide conservateur dans lequel les espèces ont été placées. Quand des insectes sont placés par exemple dans un flacon avec de l'alcool, l'ADN qui est dans leurs cellules, pour une part, se dissout dans l'alcool de ce flacon. Et donc le fait de séquencer cet alcool permettra d'avoir une idée déjà préliminaire et malgré tout assez approfondie du contenu du flacon sans même encore entamer l'examen morphologique et des différents individus.
Olivier Pascal, vous et toute l'équipe, vous vous apprêtez à vous envoler par hélicoptère vers un deuxième site. Pourquoi avoir ainsi découpé cette mission ?
Alors l'objectif c'était de, comme le disait Philippe, de comparer différents sites, différents types forestiers, sachant que la Nouvelle-Calédonie est un territoire particulier avec du micro-endémisme, donc des bêtes qui se trouvent dans une rivière et pas dans celle d'à côté, sur une montagne et pas la suivante. Donc l'objectif était de capturer des insectes pour l'essentiel à différents endroits selon la même méthode et de comparer la richesse d'un site par rapport à un autre, l'endémisme d'un site par rapport à un autre, et donner ainsi, si possible, des indications en termes de patrimoine naturel, de richesse de milieu aux gestionnaires locaux. Et on essayera de répliquer ce modèle d'opération sur trois sites également dans la province Nord l'année prochaine.
Et pour terminer, une question un peu provocatrice, mais que se posent sûrement certains auditeurs, pourquoi faire tout cela ? Pourquoi s'intéresser ainsi aux grillons, aux arbres, aux reptiles du fin fond de la Nouvelle-Calédonie, hein ? Philippe Brancola.
Oui, c'est une question finalement qui ramène au concept de biodiversité, la diversité biologique, la diversité du vivant. Pourquoi effectivement ne pas s'intéresser qu'à l'homme ou aux animaux vecteurs de maladies ? Tout simplement parce que cette image très complète, la plus complète possible que nous essayons d'avoir du vivant, nous permet d'abord d'améliorer les connaissances sur notre environnement et puis, qui sait, d'établir des applications qui peuvent être extrêmement utiles à l'homme, quelquefois dans un court laps de temps, à propos de biodiversité, des espèces qui peuvent nous être utiles directement ou indirectement, des espèces qui peuvent nous nuire. Si nous n'établissons pas ce type de bilan a priori, si nous n'avons pas la possibilité de mener des politiques de conservation en connaissance de cause, eh bien l'homme reste isolé dans un environnement qui lui sera plutôt hostile. Donc finalement, étudier la biodiversité, c'est aussi rendre service à l'homme.
Olivier Pascal.
J'ai souvent cette question, on a l'habitude de répondre comme le fait Philippe, et c'est une bonne chose, hein, toute la série d'arguments utilitaristes. Moi j'aime bien aussi répondre sur un autre penchant humain qui est la curiosité. Je crois qu'on est également une espèce qui nous intéressons à autre chose qu'à nous-mêmes, enfin je l'espère. Et voilà, la nature est quelque chose qui me fascine, qui m'interroge, et je pense que d'un pur point de vue intellectuel, on doit tout simplement essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous.
Est-ce qu'on peut également imaginer que les résultats de cette expédition La Planète Revisitée puissent servir dans le futur comme outil pour les décisionnaires, les industriels, dans ce territoire qui est tout de même très touché par les activités humaines?
Alors on l'espère, hein, d'autant que l'endroit où nous sommes actuellement n'a pas été choisi par hasard, il a été choisi en concertation avec la direction de l'environnement à la province sud, et il est apparu au cours de ces repérages l'année dernière qu'ils avaient besoin d'informations complémentaires sur cette fameuse côte oubliée, et on espère effectivement que les aménageurs, que les décideurs qui doivent également évidemment mener des politiques de développement prendront en compte les résultats de cette opération.
Philippe Grandcolin.
Donc, finalement, pour dire simplement que la biodiversité, on en fait partie. L'homme est un élément de cette biodiversité. Il ne peut pas s'isoler de son environnement. Donc, comme l'a dit Olivier, je pense qu'au-delà des intérêts immédiats dans l'étude de la biodiversité, il faut bien comprendre que nous sommes partie de la biodiversité. L'étudier, finalement, ne revient pas à autre chose que de porter notre regard autour de nous.
Et les scientifiques retourneront prélever d'autres échantillons en Nouvelle-Calédonie en septembre prochain. C'était un reportage de Yann Chavance.
Un grand cheminement à faire dans nos vies, et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Ça va mal, crise politique, écologique, économique. Bon, mais une fois qu'on a dit cela, il y a deux solutions. Soit on se réfugie derrière la peur et le désespoir qui nous paralysent, soit on relève la tête et on se dit que c'est une formidable opportunité pour les 7,5 milliards d'humains que nous sommes d'inventer d'autres façons de consommer, de s'entraider, de repenser les rapports de force entre pays dits pauvres et pays dits riches. Il faut inventer, innover. Mais par où commencer? Eh bien, Anciela, une association lyonnaise dans le sud-est de la France, est un véritable incubateur d'engagement.
Martin Durigneux, je suis le président et fondateur d'Anciela. Anciela, c'est une association qui a deux missions principales, susciter et d'accompagner les engagements citoyens, c'est-à-dire permettre à chacun de s'engager dans des associations, dans des collectifs, dans son travail, pour une société écologique et solidaire. Et une deuxième mission qui est d'accompagner des initiatives citoyennes en faveur d'une société écologique et solidaire, donc des projets citoyens qui peuvent être des projets d'association, des projets entre voisins ou des projets d'entreprise qui s'inscrivent dans une économie sociale et solidaire.
Quand est-ce qu'elle est née cette association et pourquoi ?
Alors elle est née en 2005, à l'époque j'avais 17 ans, on avait envie d'agir. On se demandait comment et on s'est dit qu'une association serait intéressante pour valoriser tous les moyens de s'engager qu'on pouvait avoir. À cette époque-là, c'était très très rudimentaire. On avait un petit journal, on avait des ateliers qu'on organisait, des petits événements. Et au fur et à mesure du temps, on est devenu étudiant, on a grandi comme notre association. Et à partir du moment où j'ai quitté mes études en 2011, on a décidé que c'était le moment de mettre une ambition supplémentaire à cette action qui était essentiellement bénévole. Et on a commencé, moi j'ai pris une année sabbatique dessus, et arrivé en 2012, la première personne à temps plein. Et aujourd'hui, il y a 4 personnes à temps plein au sein d'Antiela et 80 bénévoles bien engagés, dont une dizaine très très engagés, dont moi.
Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus prises en main que d'autres, notamment dans le domaine écologique ?
Oui, tout à fait. Les dynamiques citoyennes, elles sont liées à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, à ce qu'on voit dans les médias. Les deux grands sujets où on a le plus d'initiatives, je pense, aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'alimentation et de la santé et tout ce qui est autour des déchets. C'est là où on retrouve 60-70% des initiatives. Concrètement, ce qu'on dit toujours à Antiela, c'est que les personnes qui s'engagent ont deux quêtes dans leur engagement. La quête de sens, avoir quelque chose qui fait sens pour eux dans une vie qui n'a pas toujours du sens dans le monde du travail, dans le monde des institutions. Le sens n'est pas toujours perceptible. Et recréer du lien. Et donc, on retrouve dans les initiatives toujours ces deux enjeux. Faire du sens, donc toucher, mettre les mains dans la terre, réparer des choses, accompagner une personne âgée, aider quelqu'un en difficulté, et faire du lien, toujours que ça se fasse avec d'autres, toujours que ça permette de se rencontrer et de faire société ensemble, de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent et avec des gens qui sont différents de nous, pour avoir le sentiment d'être ensemble.
Alors justement, on a quelques porteurs de projets qui sont là. On va démarrer avec Sabrina, qui je crois est pressée. Je vais aller la chercher.
Bonjour, je m'appelle Sabrina. Mon projet s'appelle la maison upcycling.
Ça consiste en quoi ce projet ?
C'est faire du neuf à partir du vieux. Donc le but, on va recycler. On recycle comment ? En travaillant à long terme, j'ai réalisé qu'on pouvait recycler à travers des méthodes artisanales d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui viennent d'où ?
À la base, c'était une passion. J'étais une maman. Pendant un congé parental, je faisais des choses pour mes enfants. Et puis, j'ai réalisé que ma maman savait faire des choses qu'elle m'avait cachées. Et puis, j'ai demandé de montrer ce qu'elle savait faire. Et au bout d'un moment, ce n'est pas comme maman, j'ai rencontré d'autres femmes qui viennent d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont un savoir-faire que j'aimerais partager avec eux.
Et donc, vous avez créé cette association qui fonctionne comment aujourd'hui ?
Elles sont partantes, elles sont très, très, très contentes de savoir qu'elles vont partager leur savoir-faire, rencontrer d'autres personnes, parce que malheureusement, ces personnes-là sont à l'écart en général, travailler autour d'un thème, le recyclage.
Donc ça valorise ces femmes et en plus ça répond à une problématique environnementale.
C'est exactement ça. Par exemple, animer un atelier qui va dire création de l'hiver est passé, que faire de son vieux pull ? Venez, ramenez vos vieux pulls, on va faire un coussin pour l'hiver prochain. Ça peut être un thème et du coup on fait intervenir une ou deux dames et d'autres personnes qui souhaiteraient faire des créations à partir de récup. Là je suis pas mal avec des centres de loisirs pour sensibiliser les enfants au tri des déchets à travers des ateliers upcycling.
C'est un moyen pour vous de trouver du sens aussi à ce que vous faites au quotidien ?
Ah oui, parce qu'il y a l'échange. J'étais très absente dans le monde du travail, j'appréhendais le retour et là j'ai trouvé un équilibre extraordinaire entre ma vie de famille, le contact avec les gens, les enfants et puis on aimerait un peu changer les habitudes pour que les gens commencent un petit peu à recycler, à trier.
Martin, Sabrina disait que votre association aussi là permettait de ne plus se sentir seule. C'est l'un des buts aussi ?
Oui, tout à fait. La pépinière d'initiatives citoyennes au sein d'Antiela, donc qui accompagne les porteurs d'initiatives, a entre autres vocation à permettre aux porteurs de comprendre dans quel écosystème ils s'inscrivent, à la fois d'acteurs anciens qui agissent sur le territoire depuis de longues années et de nouvelles initiatives qui émergent à leur côté avec lesquelles ils peuvent construire des ponts.
Votre aire géographique d'action est limitée exprès ?
Tout à fait, oui. C'est la métropole de Lyon. Nous, on a tendance à dire le réseau TCL, qui est le réseau en fait, des transports en commun, parce que c'est là où nous, on peut se déplacer et c'est là où les gens viennent essentiellement vers nous.
Est-ce qu'il y a un vrai dynamisme associatif ici à Lyon ?
Ça, c'est sûr. Lyon, c'est une des capitales en termes d'engagement citoyen et en des termes de vie associative et d'économie sociale et solidaire en France. C'est depuis des siècles un terreau fertile et depuis qu'on y est, ça fait 10 ans qu'on observe, qu'on est attentif à ces dynamiques, on voit qu'il y a une attention croissante des citoyens et un engagement croissant des personnes, en particulier de la génération, on va dire 20-35 ans, dans des associations et aussi dans des initiatives que les personnes montent d'elles-mêmes pour trouver un sens à leur vie, qu'ils ne trouvent pas toujours dans le monde du travail.
Vous avez créé un guide récemment qui recense plus de 400 initiatives. C'est le haut de l'iceberg ou vous avez vraiment balayé large ?
On a balayé large et en même temps c'est le haut de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on c'est un guide, donc on a 400 manières de s'engager. On a balayé différents champs parce qu'on a du social avec tout ce qui est action sociale, aide aux devoirs, maraude pour les SDF, etc., etc., aide aux personnes âgées. Tout ce qui est écologie et tout ce qui est solidarité locale. Donc on a en fait une grande diversité. Pour autant, il y en a qu'on a oublié. Et puis il y a aussi tout ce qui est en train de naître et qu'on n'a pas intégré. Nous, par exemple, la pépinière d'initiatives citoyennes d'Antilla, où on a 60-70 porteurs qui y sont accompagnés, il y en a 3 ou 4 qui sont dans le guide. Parce qu'en fait, pour la plupart, les autres n'étaient pas prêts à accueillir des bénévoles.
C'est important d'être ancré géographiquement.
C'est décisif pour nous parce que c'est ce qui fait sens. On agit ici parce que c'est l'endroit qu'on connaît avec les personnes qu'on connaît. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être en relation avec le monde entier pour échanger sur nos pratiques, nos actions, nos idées, nos méthodes, les initiatives géniales. Et on a des actions qui se mènent à travers le monde de partenariats pour partager nos expériences, partager notre expérience de la pépinière, partager nos méthodes d'accompagnement. Et justement, la porteuse que tu vas rencontrer juste après, Anne, on a vu avec elle, c'est une des premiers temps qu'on a pris sur ces balades qu'elle te racontera, comment ça peut s'inscrire en partenariat avec les acteurs, institutions publiques, acteurs associatifs. Et c'est un point qui est assez important pour nous, que l'action des initiatives soit cohérente, en tout cas qu'elle soit en synergie avec celle des autres associations du territoire, pour qu'on avance tous ensemble.
Alors bonjour Anne.
Bonjour. Donc je suis en train de monter l'association WeWaste sur Lyon. Je suis ingénieure agronome de formation et voilà, ça fait six mois que je suis sur Lyon et ça fait 2 mois que officiellement cette association existe.
Alors quel est le principe ?
Alors WeWaste, c'est d'abord des collectes de déchets sous forme de balade, où on va se balader dehors, on récolte les déchets et surtout on le fait ensemble, donc c'est assez sympa en fait. C'est des formules un peu braquage, donc on va braquer la nature, on récolte un butin, on le trie et donc tout ça, ça s'ancre dans la sensibilisation et l'éducation de la gestion des déchets des citoyens. Et une fois qu'on a trié, on peut blanchir une partie des déchets qu'on a récoltés parce qu'on est en train de construire une machine qui va nous permettre de transformer le plastique trouvé pour en faire des bobines d'imprimantes 3D. Le gros enjeu, c'est que les déchets n'aillent pas dans l'eau aussi, parce que très vite dans l'eau, c'est amené dans l'océan et ça crée des gros, gros problèmes.
Justement, cette semaine, c'était la journée mondiale de l'océan, donc on est content de vous entendre dire ça. Comment vous avez eu cette idée ?
Alors, je suis super sensible à tous ces sujets-là depuis pas mal de temps. En fait, je suis randonneuse, je suis plongeuse, je suis navigatrice et justement l'océan, ça me touche. Et quand je plongeais, j'étais plongeuse pro pendant un moment. Et quand j'étais sous l'eau et que je voyais ces fils de pêche et ces bouts de plastique traîner au fond de l'eau, je me disais, il faut faire quelque chose, mais on ne peut pas tous aller plonger sous l'eau à 20 mètres de profondeur pour les ramasser. Il faut y aller en amont. Et je me suis dit, bon, je vais les récolter en amont ici, à la ville. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait même passer le cap de l'éducation aux gens pour en fait passer au niveau zéro où le consommateur doit moins avoir de plastique pour plastique et autres déchets.
Et Antilla vous a aidé ?
Beaucoup, en fait. Donc déjà à m'ancrer dans l'écosystème lyonnais parce que bah, je suis pas du tout lyonnaise, je suis arrivée en janvier, donc voilà. Et bah pour des points sur le graphisme de mon logo, sur des petites broutilles qui paraissent broutilles mais qui sont en fait super chronophages. C'est super sympa d'avoir de l'aide et du soutien. Quelqu'un qui vous dit « chouette, c'est bien ce que tu fais » parce que t'es un peu tout seul sur ton expérience, sur ton aventure. Quoi.
C'est essentiel que chacun agisse à son échelle en fonction de sa sensibilité.
Ouais, bah alors chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et au début, j'avais des idées géantes de « on va tout révolutionner, on va tout faire ». Et en fait, déjà en agissant local, je me rends compte qu'on agit énormément et c'est indispensable de commencer comme ça. C'est génial. Voilà. Merci.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
To your inner voice, and I'm listening to the noise.
it to the people.
Give it to the people now. Give it to the people now. This is what the world about. Give it to the people now. Give it to the people now. Give it to the people now. This is what the world about.
Autre initiative, toujours dans le domaine des déchets, mais électronique cette fois. Ça s'appelle l'Atelier Soudé. Alors, vous êtes trois, prêts à vous présenter.
Clément, coprésident de l'Atelier Soudé.
Alassane, bénévole à l'Atelier Soudé.
Paul, bénévole à l'Atelier Soudé.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'Atelier Soudé? Comment ça marche?
Alors, l'Atelier Soudé, c'est un atelier d'autoréparation électronique. C'est un peu comme les ateliers d'autoréparation de vélo. Alors, en fait, on a un lieu, donc actuellement un garage, où on accueille les gens, donc tous les mercredis soirs pour le moment. On amène son objet, en fait, et on ne sait pas le réparer, on ne peut pas le faire soi-même, on ne sait pas, on dit qu'on va le casser, etc. Et nous, on répond à ça, donc, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles, donc des compétences, des outils et aussi des pièces d'occasion sur le lieu. Donc, en fait, on répare ensemble.
Et on répare quel type d'objet ?
Moi, je m'occupe de tout ce qui est téléphonie et tablette. On fait quand même tous les appareils électroménagers de petits standings parce qu'on n'a pas d'espace quand même pour accueillir les lave-linges et autres. Les appareils électroménagers comme les robots mixeurs et autres, on fait tous ces trucs-là chaque mercredi de 18h à 21h.
L'idée, c'est de transmettre le savoir et aussi permettre aux adhérents, après la séance, qu'ils soient capables d'eux-mêmes de réparer leur objet.
Et du coup, qui vient à ces ateliers?
Tout le monde vient à l'atelier, par exemple. On reçoit quand même des gens de tous bords.
Il y a combien de personnes, par exemple, en moyenne le mercredi?
Le mercredi, on limite les adhérents à 10 à cause de l'espace.
Et vous-même, vous êtes formé? Vous savez réparer ou vous avez appris sur le tas?
On a appris sur le temps quand même, moi qui fais la réparation de téléphone et de tablette. Et grosso modo quand même, on arrive à réparer 90 ou 95% de chances de réparer les pannes parce que les pannes sont répétitives.
Et est-ce que c'est payant de participer à cet atelier?
Donc on a une adhésion à régler qui est de 20€ à l'année. Après, libre à chacun donc, de donner un prix libre si on est content de la réparation ou bien du moment qu'on a passé puisque c'est aussi plutôt le fait de passer un bon moment, en fait. Après,
il y a des pièces, j'imagine,
voilà,
quand même.
Oui, voilà, les pièces, on les vend. On essaie de les vendre donc à des petits prix, comme pourrait le faire Emmaüs. Après, on vend aussi des appareils, donc qu'on répare, nous, qui est issu de dons. Mais notre grande question, c'est donc de créer un modèle économique, en fait, sous la réparation. Ancina nous a beaucoup aidé sur les réflexions de modèle économique, de création d'emplois, etc. Et aussi sur le réseau, donc c'est-à-dire mettre en relation les diverses associations, les gens qui sont en attente, et aussi donc nous faire participer à des événements.
Martin, l'Atelier Soudé, vous les avez fait intervenir dans des quartiers, comment on dit, populaires?
Oui, on a plusieurs démarches qu'on mène avec des bailleurs sociaux ou avec des centres sociaux dans des territoires dits politiques de la ville, qui sont plutôt des territoires des cités. Et l'Atelier Soudé, comme d'autres, comme ce qui est autour du jardinage ou ce qui est autour de la réparation des vélos, qui marche très très bien parce que les gens sont touchés, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones, ils ont des vélos, ils mangent et du coup c'est des choses qui leur parlent et qui viennent, ils réparent et puis c'est l'occasion de parler des déchets, de parler de la santé, parler aussi du fait que les ordinateurs qu'on a, ils sont responsables indirectement de l'extraction minière au Congo, que les déchets on les retrouve dans des grandes décharges au Ghana ou au Nigeria avec des coûts pour la santé des gens qui sont monstrueux. Donc ça permet à la fois de faire du très concret et de parler d'enjeux vraiment qui ont du sens dans la société d'aujourd'hui et où la solidarité dans la société française avec le monde, elle se pose directement alors qu'on est en train de réparer son vélo, alors qu'on est en train de réparer son téléphone portable ou son ordinateur.
L'une des difficultés pour tous les porteurs de projets que vous accompagnez, c'est de passer du statut associatif au statut de création d'emploi, enfin de vivre finalement du projet qu'ils ont créé. Comment vous les accompagnez pour ça?
Alors c'est une des parts importantes dans notre accompagnement au sein de la pépinière d'initiative citoyenne que de permettre aux porteurs de définir un modèle économique viable qui soit cohérent avec les valeurs qu'ils portent, donc qui ait des financements cohérents avec les valeurs qu'ils défendent
et qui leur permettent, quand ils le souhaitent, tous les projets n'ont pas vocation à créer des emplois, mais je dirais 60-70% des projets qu'on accompagne sont créateurs d'emplois. Et c'est là qu'on voit avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du don citoyen, de prestations qu'ils proposent, de formations qu'ils proposent, d'événements qu'ils proposent. Et on construit avec chaque initiative un modèle économique qui à chaque fois est original et qui leur permet d'atteindre plusieurs milliers d'euros si nécessaire, plusieurs centaines de milliers d'euros si nécessaire. Une association, c'est une structure qui sert un intérêt général, qui se bat pour notre intérêt général. Il y a un ministre iranien qui s'appelait Majid Rahnema qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la décroissance, qui a écrit sur la puissance des pauvres. Je crois beaucoup à ça, je travaille moins pour avoir du temps pour agir gratuitement et c'est ma puissance d'agir, ça me permet de pouvoir accompagner qui je veux. Parce que nous, on sait qu'on a cette force, on le fait gratuitement et personne ne peut nous interdire d'agir.
Donc, je m'appelle Myriam, je présente le projet Coab Avenir. Donc, c'est un projet de mise en relation de personnes âgées avec des jeunes pour qu'ils cohabitent ensemble au sein du même logement. Donc le but, c'est le vivre ensemble, en fait, et de favoriser aussi le maintien à domicile des personnes âgées.
Parce qu'en France, contrairement à dans d'autres cultures, c'est vrai que les personnes âgées sont souvent seules chez elles.
Oui, les enfants partent du domicile familial, donc les personnes âgées restent seules ou vont en maison de retraite, mais la grande majorité des personnes âgées n'ont pas envie de finir en maison de retraite et essayent de trouver des solutions pour se maintenir à domicile.
Et en parallèle, il y a des étudiants qui cherchent des logements.
Exactement. Donc en parallèle, il y a un gros problème au niveau du logement des jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se loger parce que le loyer est trop cher, parce que les propriétaires d'aujourd'hui demandent énormément de garanties pour qu'ils aient accès à un logement. Et donc du coup, on développe un site internet pour qu'il y ait des offres des personnes âgées qui soient sur le site internet. Ensuite, les jeunes vont consulter ces offres-là, donc vont faire une mention JEM, qui va nous envoyer une notification et va enclencher des rencontres d'affinité.
Mais alors du coup, est-ce qu'il y a des droits et des devoirs de chaque côté ?
Alors oui, il y a des cotisations à payer, donc à Coab Avenir, qui sera de l'ordre de 30 euros, et un loyer...
Un loyer modéré, j'imagine.
Oui, un loyer modéré par rapport au prix du marché, hein, clairement.
Tout le monde se rend service dans l'histoire, alors est-ce que ça marche ?
Bah écoutez, on va essayer que ça marche bien et puis...
Vous en êtes au début là ?
Ouais, on est au début, on vient tout juste de se lancer et on espère que ça va se développer parce que l'intérêt générationnel c'est quand même important et entre toutes générations il faut qu'il y ait un échange et du partage.
Chaque semaine, Anciela reçoit des demandes d'accompagnement de 5 à 6 personnes pour des projets aussi variés que le tri des déchets, l'aide aux migrants ou la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour continuer à faire grandir leur pépinière gratuitement, ils ont besoin de nous. Pour les contacter, un site internet www.anciela.info/don. I'm in a book.
Dropped into your arms. Well, Mama, I've been bad and I wanna come home.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.